Scene one, Apple, take one.
On parle beaucoup en ce moment des préparatifs du Festival international du film à Cannes.
Nous déclarons ouvert,
abierto,
le 72e Festival international du film
de Cannes.
Bonjour, Cannes spécial première des Vies de cinéma avec aujourd'hui quatre figures à l'honneur du festival et de la grande table. Alain Delon, le samouraï, Claude Lelouch et Anouk Aimée, accompagnés de Jean-Louis Trintignant, l'homme et la femme qui ne nous ont pas quittés depuis 50 ans et la productrice Margaret Ménégoz qui a accompagné les plus grands d'Éric Rohmer à Michael Haneke, de Barbet Schroeder ou encore Fassbinder. Puis, le polar dans tous ses états, déjanté et désabusé avec les siffleurs du roumain Corneliu Porumbuiu, virtuose et définitif avec le lac aux oies sauvages du chinois Diao Yinan, avant de retrouver la table ronde des critiques cannois Michel Simon et l'américaine Elisa Meselson. Avec aussi des photos, des infos, des intégrales à retrouver sur notre site sur franceculture.fr. On est ensemble jusqu'à 13h30.
Cher président, mon cher directeur, cher vieux camarade.
Ladies and gentlemen, good evening.
Encore une fois, merci.
La grande table.
De m'inviter à monter vos augustes 24 marches.
Olivia Gesbert.
Midi 3 sur France Culture. Bonjour et bienvenue à tous. On commence par le journal de Cannes d'Antoine Guillot et bonjour à vous.
Bonjour Olivia.
Hier, le Festival de Cannes a remis une palme d'or d'honneur à un monstre du cinéma français, comme l'a nommé Thierry Frémaux, avant de projeter en version restaurée Monsieur Klein, film sorti en 76 de Joseph Losey, avec Alain Delon, bien sûr, producteur et acteur principal. Un hommage précédé d'une masterclass, La fabrique de l'acteur. Comment ça marche, en quelques mots?
Ne joue pas. Regarde comme tu regardes. Parle comme tu parles. Écoute comme tu écoutes. Fais tout comme tu le fais. Sois toi. Ne joue pas. Vis.
Ne joue pas, vie. C'est le conseil déterminant que lui a donné Yves Allégret quand il l'a embauché. C'était pour son premier film Quand la femme s'en mêle en 1957. Et voilà pourquoi Alain Delon est un acteur et non un comédien. Cette masterclass d'acteur, c'est un peu le contre-champ de la soirée funèbre et lacrymale qui a vu hier soir la star retraitée honorée d'une palme d'or d'honneur, donc qu'il a décrite en larmes comme un hommage posthume de son vivant, préparant son public à son inéluctable disparition d'un sépulcral au revoir. Contre-champ aussi de la polémique lancée des États-Unis sur Internet contre cette distinction en raison de ses propos un rien discutable tenus dans le passé sur les femmes et les homosexuels. C'est le risque évidemment quand il n'y a pas de solution de continuité entre l'homme et le rôle puisque telle a donc toujours été la conception du jeu selon Alain Delon. Pendant la cérémonie, le délégué général Thierry Frémaux a réaffirmé que le festival serait toujours du côté des artistes, même s'ils disent des âneries, donc en rôlant pour sa défense Nolens Volens, rien moins que Léo Ferré et sa phrase fameuse « N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. C'est donc ni funèbre ni polémique, mais tout à fait joyeux et même badin qu'Alain Delon, pendant ce rendez-vous, comme on dit maintenant à Cannes, a raconté moult anecdotes sur ses débuts, son travail avec Visconti, Cavalier, Losey et tant d'autres. Et puis bien sûr, Jean-Pierre Melville, il est ainsi revenu sur ce jour où, dans son hôtel particulier de l'avenue de Messine, le cinéaste au Stetson et lunettes noires est venu lui présenter le scénario du samouraï Alain Delon.
On s'est assis dans le salon, il avait son scénario, il m'a dit « Écoutez Alain, je vais vous lire une histoire, c'est mon scénario, c'est ce que je souhaiterais faire avec vous, je l'ai écrit pour vous, ça s'appelle Le Samouraï ». Je savais ce qu'était qu'un samouraï, puisque vous le savez, depuis très longtemps, je suis une star au Japon. Et Melville commence à me raconter l'histoire, et je suis là assis. Et au bout de 4-5 minutes, et j'avais pas encore dit un mot, et je l'arrête comme ça, je lui dis « Mais Jean-Pierre, ça fait 5 minutes que vous me racontez l'histoire et j'ai pas dit un mot. » Il me dit « Non, non, pas encore, ça viendra plus tard. » Je lui dis « Alors, c'est pas la peine d'aller plus loin, je fais le film. » J'ai encore raconté une anecdote. On avait un quatrième film en projet avec Jean-Pierre. Et puis un jour, Jean-Pierre est invité à déjeuner par un grand ami à lui. Vous le connaissez très bien, les gens le connaissent aussi très bien. Il s'appelle Philippe Labro.
Oui.
Et Philippe faisait souvent rire. Jean-Pierre lui amusait, lui racontait des conneries, des histoires. Et bref, ils sont en train de déjeuner. Et puis, Philippe lui raconte une connerie. Et Jean-Pierre, qui adorait les bêtises, qui adorait les histoires, se met à rire. Fait... Et il est mort.
Ouais, c'était son AVC, c'est là qu'il fait son AVC.
Il est mort d'un éclat de rire, ouais, provoqué par son ami journaliste. Il est mort d'un éclat de rire. J'en ai beaucoup souffert, mais j'étais très heureux parce qu'il s'est pas rendu compte qu'il était mort. Il n'a pas souffert de la mort. Il n'a pas été dans un hôpital. Il a vraiment éclaté de rire, rayé en poussant sa robe. Il est mort. Voilà. La mort de Melville, vous la connaissiez pas, je vous la raconte.
Voilà. Et quand je vous disais qu'il était Nathan Badin, et on peut rire avec la mort.
Merci beaucoup, Antoine Guillot. Le journal de Cannes est à réécouter sur franceculture.fr. Cannes, c'est le week-end de tous les au revoir. Il est 12h17 et c'est la grande table.
Bonjour.
Vous êtes nouvelle ?
La fin d'une époque, assurément, avec les plus belles années d'une vie, où Claude Lelouch fait se retrouver plus de 50 ans après le couple mythique d'un homme et une femme, Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, présenté en sélection officielle hors compétition samedi, avant sa sortie en salle ce mercredi. Shabadabada, le retour, on a donc refait le film, nous, avec le réalisateur Claude Lelouch et la comédienne Anouk Aimée. De la plage de Deauville au tapis rouge, en passant par la maison de retraite où le héros finit sa vie, retrouve l'aura de la femme qu'il a toujours aimée et la salle a fredonné.
Rêver à quoi ?
Des jolies femmes. J'ai beaucoup aimé les femmes. Et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez. C'est joli ce geste que vous venez de faire.
Bonjour Anouk Aimée.
Bonjour.
Bonjour Claude Lelouch.
Bonjour.
Les plus belles années d'une vie, et vous mettez tout de suite en exergue, en ouverture du film, cette phrase de Victor Hugo, sont celles que l'on n'a pas encore vécues. Ce film, Claude Lelouch, vous l'avez pensé comme un éloge du présent ?
Oui. Oui, oui, je crois de plus en plus au présent, à la force du présent, au pouvoir du présent. Je veux dire que les gens qui passent à côté du présent, qui se laissent emmerder le présent par le passé et le futur, n'ont aucune chance d'être heureux. Donc, comme moi j'avais très envie d'être heureux, j'ai appris à apprécier le présent. Et à l'âge que j'ai, c'est la seule chose qui me reste.
Ce patronyme que vous avez, Anouk Aimée, est une invitation à aimer, tout simplement, comme dans le film de Claude Lelouch. Il paraît que c'est Jacques Prévert qui l'a trouvé.
Aimée ?
Oui.
Oui. Oui, parce que j'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais 14 ans, et j'avais gardé le nom du personnage de mon premier film, qui était une participation. Elle s'appelait Anouk, alors on m'appelait Anouk. Et Jacques a dit, tu peux pas t'appeler Anouk tout court quand tu auras 40 ans. Et il y avait Arletty dans le film. Je me suis dit, elle s'appelle bien Arletty tout court. Il a dit, non, il te faut un autre nom. Et il m'a appelé Aimée.
Et vous l'avez gardé ?
Je crois.
Ça a de l'importance dans la vie d'aimer et d'être aimé ?
Bah, pas pour vous. Non ? C'est très important, c'est ça. C'est principal d'aimer et d'être aimé, non ?
C'est la chose la plus importante. C'est la réflexion numéro un de l'humanité. C'est... Vous savez, quand on a la chance de pouvoir aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, on bascule dans une autre dimension. C'est ça, l'amour. En général, on est surtout amoureux de soi. Mais le jour où on peut aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, là, on franchit une étape.
Et le pouvoir ?
Le pouvoir, il va avec l'amour. Quand vous dites « je t'aime » à quelqu'un, vous lui donnez un pouvoir. Vous lui donnez l'autorisation. Oh, excusez-moi, vous voyez, j'ai toujours la musique du film avec moi. Voilà, voilà.
Et... Vous l'avez mis sur votre téléphone portable.
Oui, oui, bien sûr.
Il ne vous quitte plus, en fait, ce film.
Non, elle ne me quitte plus. J'ai pas envie qu'elle me quitte. Elle m'a tellement, tellement protégé, tellement ému. Non, je vous disais, il y a le pouvoir... C'est un drôle de truc. C'est un drôle de truc parce que c'est vrai que quand on aime quelqu'un, on a envie d'avoir un certain pouvoir sur l'autre.
Et sur un tournage, qui a le pouvoir ? Ce sont vos acteurs ou c'est vous qui le gardez ?
Alors, sur le tournage, j'ai effectivement un pouvoir. Mais c'est un pouvoir qui est à la disposition des acteurs. Je veux dire, je sais que c'est eux qu'on va voir. C'est leur histoire qui va compter. Donc, moi je fais du cinéma comme d'autres font du jazz. Il y a le thème et puis ce qu'on en fait. Voilà, j'adore les figures libres et les figures imposées. Mais je préfère les figures libres, parce que les figures libres, c'est les figures de la vie. Et puis, ce que j'aime surtout, c'est la spontanéité. Donc je me bats sur un tournage pour que les acteurs soient spontanés. je supporte plus les acteurs qui jouent. Donc quand j'avance vers un film, je connais pas la fin de mes films. Moi, je découvre mes films quand ils sont finis.
Flashback, 1966, c'est la date de sortie d'Un homme et une femme. Puisqu'on parle des acteurs, de cette famille d'acteurs, comment s'est fait le casting d'Anouk Aimée et de Jean-Louis Trintignant?
Dès le départ, je pense à Trintignant. Je ne pense pas à Anouk au départ. J'ai même rencontré Romy Schneider. Avant.
Je m'en vais.
Anouk.
Non.
J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. C'est une actrice extraordinaire, mais c'est une actrice. Et moi, je cherchais une femme. Je venais d'écrire un film qui s'appelait « Un homme et une femme ». Et j'avais dit à Jean-Louis, je veux filmer un homme et une femme, pas un acteur et une actrice. Il y a une grande différence. Et Jean-Louis me dit, mais écoute, la femme idéale, je l'ai, Anouk Aimée. Et c'est vrai qu'Anouk est une femme. C'est une fantastique actrice, mais elle est une femme.
Anouk Aimée, on parlait de votre patronyme. Vous avez donc retrouvé pour ce film « Les plus belles années d'une vie ». Vous avez retrouvé le personnage, le prénom et le nom d'Anne Gauthier.
Oui.
Est-ce qu'elle tient de vous? Est-ce qu'elle a... Il y a beaucoup de vous en elle. Vous vous retrouvez dans cette femme?
Il y a plutôt beaucoup de moi dans elle. Parce que c'est une femme. Il y a moi et j'espère il y a les autres.
Il y a du bonheur, mais pas que. Vous avez mis aussi dans ce film vos cicatrices, vos blessures.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a... c'est de ça dont on se nourrit. J'ai adoré filmer les cicatrices de mes acteurs, qui sont des gens qui ont traversé des moments difficiles, compliqués, surtout Jean-Louis Trintignant, qui a eu une vie hors norme. Donc on avait des munitions pour parler des choses essentielles. Et puis, ils sont dans la troisième mi-temps. Jean-Louis, Anouk et moi, on a la chance de vivre cette troisième mi-temps. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de vivre cette troisième mi-temps. Et au moment de la troisième mi-temps, on ne s'interdit plus rien.
Samedi soir, lors de la projection du film au Palais des Festivals à Cannes, la salle a entonné à la fin du film, repris en chœur le fameux refrain du film, le Shabadabada de Francis Lai, la musique aussi de Pierre Barout. Deux absents aujourd'hui qui n'étaient pas là. C'est eux qui manquaient à cette soirée pour vous réunir presque tous.
Oui, c'est les deux grands absents. C'est les deux grands absents. D'ailleurs, le film leur est dédié. Il est dédié aussi à Samuel Adida qui nous a quittés. Non, c'est vrai que la musique est un personnage important de tous mes films. Et j'ai toujours enregistré la musique de mes films avant le film. Donc Francis et moi, on était d'une complémentarité incroyable. Et il a eu la chance de faire la musique de ce film avant de partir. Et c'est ensemble que nous avons décidé qu'on confierait l'orchestration à Calogero. Et on a voulu que Nicole Croisil et Calogero chantent dans la même chanson pour réunir justement ces 50 années qui séparent ces deux chanteurs. Voilà. Mais la musique, elle est fondamentale dans mon cinéma. Elle est essentielle. C'est la voix du grand metteur en scène. Je veux dire que la musique, c'est notre part d'irrationnel. Je veux dire que c'est ce qu'il y a de plus beau. Regardez des gens... dans une salle de concert, regardez 1000 personnes qui écoutent de la musique, regardez leur visage, regardez, ils sont... Et puis prenez les mêmes en train d'écouter un discours politique, vous avez la tête qui fond, c'est pas du tout la même tête. Donc la part d'irrationnel est fondamentale dans mes films. Et c'est cet irrationnel que j'ai envie de plus en plus de filmer.
Une dernière question, Claude Lelouch, pourquoi avez-vous eu envie de remettre dans ce film ce long plan séquence dans Paris avec Trintignant au volant? C'était un rendez-vous, un court-métrage que vous avez réalisé en 1976, qui est étudié presque dans toutes les écoles de cinéma aujourd'hui. Il fallait qu'il ait sa place dans cette suite, dans ce film, Les plus belles années d'une vie.
Il a sa place. Il a sa place parce que c'est peut-être le plan qui me définit le plus. Il y a dans ce plan tout ce qu'il faut faire et pas faire. C'est le film dont je suis le plus fier et dont j'ai le plus honte.
Pourquoi ?
Ben honte, parce qu'il ne faut pas griller 18 feux rouges, il ne faut pas griller 25 stops. Voilà, donc je fais au volant d'une voiture tout ce qu'il ne faut pas faire pour arriver à l'heure à un rendez-vous amoureux. Je pense qu'encore une fois, dans la tête de Jean-Louis, à un moment donné, tout se mélange. Tout se mélange, le passé, le présent, le futur. Et j'ai pensé que pour symboliser la vitesse du temps qui passe, il fallait la vitesse. Et ce plan symbolise le temps qui passe. Et c'est vrai qu'il passe très très vite, très 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 vite. C'est une sorte de vertige comme ça que je voulais donner à la fin du film. Et j'ai repris ce plan qui est le plan le plus vu au monde aujourd'hui, puisque sur les réseaux sociaux, sur Internet, en Chine, au Japon, partout. C'est le film. Est... Donc je me suis dit, c'est bien. Ça aussi, ça fait partie de la mémoire collective. Mmh. Et comme je me sers de la mémoire collective d'un homme et une femme, je me suis dit, c'est une évidence, il faut réunir ces deux films.
Voilà, Un homme et une femme n'aura pas été un rendez-vous manqué aussi avec ce rendez-vous final. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anouk Aimée, merci Claude Lelouch.
Merci.
Merci.
La troisième mi-temps d'un homme et une femme, faite de flashbacks et de répliques nouvelles avec un Jean-Louis Trintignant qui perd la mémoire, mais pas sa répartie, s'appelle Les plus belles années d'une vie et sort en salle ce mercredi. Spécial Cannes, toujours, on continue à rembobiner le fil et le film. Hier, sous les gouttes, France Culture a remis ses 3 prix cinéma. À Laszlo Nemes d'abord, lauréat du prix France Culture Cinéma des étudiants. À Jean-Paul Sivérac, lauréat du prix international étudiant Unifrance France Culture. Et un prix France Culture consécration pour la productrice Margaret Ménégoz, une grande dame du cinéma, l'accompagnatrice des plus grands cinéastes européens. Son œuvre, plus de 80 films produits et autant d'incontournables, dont Amour de Michael Haneke, Palme d'Or ici à Cannes, le film où Jean-Louis Trintignant brillait en vieil homme amoureux et qui rend un peu palote, artificielle aujourd'hui, les retrouvailles de Claude Lelouch. Néanmoins, on part retrouver Margaret Ménégoz, une vie, une mémoire de cinéma.
Tous ces films, leurs secrets, leur beauté et dont le cinéma a tant besoin.
France Culture.
Ça fait 60 ans déjà que nous avons rendez-vous chaque année au mois de mai avec le cinéma du monde.
La grande table. Action. Olivia Gesbert.
Bonjour Margaret Ménégoz.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes l'une des rares femmes productrices aujourd'hui encore, l'une des premières surtout à la tête d'une maison de production indépendante, les films du Losange. À Cannes, vous êtes ici pour Jeanne de Bruno Dumont, Les Particules de Blaise Harrison et Vif Argent de Stéphane Battu. On peut dire que Éric Rohmer et Barbet Schroeder ont été vos deux parrains dans le métier.
Oui, ils m'ont engagée comme femme à tout faire dans la société. Et parce que c'était une année où chacun faisait un film et ils avaient besoin de quelqu'un qui garde la maison, qui répond au téléphone, qui paye les factures, qui les tient au courant. Et donc j'ai commencé comme ça. Et puis quelques années après, ils m'ont proposé un contrat pour que je reste longtemps sûrement. Et j'ai dit, mais écoute, on est 3, qu'est-ce qu'on va faire avec un contrat? Et puis c'est à moi de faire en sorte qu'il y ait toujours ici quelque chose que j'aime faire. Ah, tu veux devenir gérante? Oui. Donc je suis devenue gérante. Et quelques années après, on a dit, j'ai trouvé qu'on créait des richesses. Et je leur ai dit, on partage. Et puis on a partagé.
Ils ont dit d'accord.
Ben oui.
Ce sont eux qui créent la maison de production. Hein.
C'est Barbet Schroeder qui a créé la production.
Pour son film, au départ, pour
le
besoin d'un
film. Ah non, pas du tout, pour un film de Rohmer. Rohmer, à l'époque, était rédacteur en chef des cahiers du cinéma. Barbet a mis en gage dans une maison d'auction, en fait, il vend un tableau de Nolde, qu'il avait des familles. Et avec cet argent-là, ils ont commencé, il a commencé. Et Rohmer est devenu associé un peu plus tard.
On était en quelle année, là, à peu près?
On était en 63.
C'était plus facile de faire du cinéma dans les années 60 qu'aujourd'hui?
Non. Mais c'est après que c'était devenu beaucoup plus facile. Depuis le début des années 70, les sources de partenaires de financement se sont élargies sans cesse. Canal Plus s'est créé en 84. Ensuite, on a créé les Sofica, la VHS est arrivée, puis les DVD, puis il y a eu les crédits d'impôt, puis en 74, l'ORTF a explosé et on a fait plusieurs sociétés qui avaient des obligations de coproduction qui n'existaient pas avant, du temps de l'ORTF. Et donc, c'était de plus en plus facile et confortable. Et maintenant, on entre dans une période où il y a, ça se réduit de nouveau.
Ça se réduit. Pourquoi? Oui.
Ben, je ne sais pas, parce que il y a un grand concurrent qui sont les plateformes, qui n'existaient pas, qui est venu, et qui fait forcément de la concurrence et de l'ombre aux chaînes de télévision, et qui sont de plus en plus frileuses. Et les cinémas d'auteurs, les films d'auteurs sont de plus en plus menacés. Parce que France Télévisions a beaucoup réduit son intérêt pour les films d'auteurs, Canal Plus également. Maintenant, on fabrique 300 films par an en France, Et à l'époque, on en fabriquait un peu plus de 100. Et les sommes sont à peu près les mêmes, les sommes investies par les chaînes.
Quand un grand festival comme Cannes décide de fermer ses portes à Netflix, vous vous dites c'est reculer pour mieux sauter. Il va falloir à un moment.
C'est compliqué. Il faut qu'on trouve une solution. Si vous voulez, je me suis toujours beaucoup battue, et parce que je pense que le passage par la salle est quand même, il faut qu'on se tienne, parce que même pour les plateformes comme Netflix, si un film passe direct sur Netflix sans la salle, la presse, il y a des notules, sauf quelques rares exceptions. Et quand un film sort en salle avant, ils ont une promotion formidable par la presse.
Aujourd'hui, Netflix s'intéresse au cinéma d'auteur, aux films d'auteur.
Oui,
mais c'est comme un magnifique. Segment, comme un segment de marché. Vous, comment vous définiriez un film d'auteur? Qu'est-ce que c'est un film d'auteur?
Écoutez, tous les films sont des films d'auteur. Ils ont tous un auteur. Généralement, on définit un film d'auteur un film qui a moins d'espoir de recettes qu'un film mainstream, une comédie ou un grand drama historique, etc. Mais il y a des auteurs qui, enfin, vraiment, quand je regarde uniquement ce qui se passe dans le porte-monnaie d'un producteur d'un film d'auteur, comme leur coût est souvent très, très inférieur aux films à grand spectacle ou aux grandes comédies faites avec des stars, ils peuvent rapporter beaucoup, beaucoup plus d'argent parce que le coût est divisé par 5 ou 6.
J'en reviens aux origines pour vous, Margaret Ménégoz. Le cinéma, c'était une affaire de famille?
Oh, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que j'ai épousé un cinéaste français, Robert Ménégoz, qui faisait des films documentaires et que je voulais pas rester à la maison pendant qu'il partait au Japon ou au Brésil faire un documentaire. J'ai commencé à travailler avec lui. Si j'avais épousé un agriculteur, j'élèverais des vaches. Enfin, je sais pas où je ferais du blé dans la Beauce. C'est le hasard de la vie qui m'a amené là-dedans.
Mais les hasards font parfois bien les choses.
Ah, très bien.
Ça l'est devenu avec une famille que vous vous êtes composée avec Romer, avec Schröder, donc, mais aussi avec Rainer Werner Fassbinder, Weita, Michael Haneke, qui vous décrochera 2 palmes d'or ici à Cannes pour Le Ruban Blanc et Amour. Certains de vos compagnons de route, de cinéastes, sont décédés aujourd'hui, mais vous continuez à les accompagner parce que si les hommes meurent, les films, eux, survivent à leurs auteurs. Hein, et vous attachez une attention toute particulière à cela. Comment fait-on vivre un catalogue au-delà de ses réalisateurs?
Il faut les faire vivre, parce qu'il faut que les œuvres ne meurent jamais. C'est plus difficile quand un auteur est décédé. Donc chaque fois que les ventes baissent un peu, les ventes internationales ou les ventes du catalogue aux chaînes de télévision en France baissent un peu, on doit organiser une rétrospective totale ou partielle, trouver quelque chose qui attire l'attention de la presse sur l'ouvrage pour faire répartir les ventes.
Les maisons d'édition ont souvent 1-2 auteurs, des écrivains qui font vivre la maison par leur succès. Vous avez, vous, dans votre catalogue, 1 ou 2 pépites, 1 ou 2 films qui font vraiment tenir la maison?
Non, c'est tous. Donc, je sais pas. Si, notre premier très grand succès au cinéma, c'était le film de Jean-Claude Brissot, Noce Blanche. Et là, au Marignan, sur les Champs-Élysées, c'était plein à 14h.
Oui, Noce Blanche, c'était près de 2 millions d'entrées, hein.
Oui.
1,89.
Oui.
Il a réalisé aussi L'Ange Noir avec Sylvie Vartan, Jean-Claude,
oui,
Brissot.
Oui.
Il est décédé il y a peu, au début du mois de mai. Il avait été condamné bien avant la vague MeToo en 2005 pour harcèlement sexuel.
Oui.
D'où l'accueil très polémique de la rétrospective pensée pour lui
non,
par la Cinémathèque.
Ils ont annulé la rétrospective.
Reporté Cinédié.
Cinédié, et maintenant ils vont peut-être la faire après sa vie. Enfin, après sa mort. Et ils y pensent. Et c'est quelque chose qui l'a tellement touché, tellement bouleversé, tellement détruit, cette annulation de sa rétrospective. Bon, si je veux dire, il a fait une chose, il a été condamné, il a payé pour ce qu'il avait fait, on va pas en parler pendant 107 ans quand même. La loi dit que une fois qu'on a purgé sa peine, une fois qu'on a, on est libre.
Vous, avoir été une femme dans ce milieu, est-ce que ça a changé la relation que vous avez tissée avec vos metteurs en scène?
Enfin, à mon avis, pas. Si vous voulez, je trouve plutôt que dans le métier de la production, alors les femmes, ça, c'est un métier qui leur correspond plus que un homme, parce que c'est un métier de mère de famille, la production. Où est-ce qu'ils dorment? Où est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils ont comme travail à faire? Qui fait quel travail? Qu'est-ce qu'on fait si le temps n'est pas comme prévu? S'il pleut et la scène doit être continuée par soleil? C'est quelque chose de se gérer une grande famille qui peut aller de 30 à 300 personnes.
Si je donne quelques noms de réalisateurs avec lesquels vous avez travaillé, est-ce que vous pouvez juste me les qualifier? Wim Wenders. Un mot pour qualifier Wim Wenders?
L'ami américain.
Lars von Trier.
Lars von Trier n'est pas produit par nous, il est en distribution. Ils avaient proposé la coproduction de Breaking the Waves. Et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, mon Dieu, cette histoire nordique, cette fille qui fait la pute comme on va prier à l'église pour son homme. Et puis ils sont revenus avec le film monté. On a commencé à le regarder avec Régine au bureau. Et puis on avait, il y avait les téléphones, les portes étaient ouvertes, et puis au bout de la première scène, on est allé fermer les portes, on a décroché les téléphones et on était scotchés à l'écran toutes les deux. Donc on a commencé, on a dit oui pour la distribution, et depuis Régine s'occupe de tous les films de Lars von Trier qui sont en distribution.
Michael Haneke.
Michael Haneke, c'est un Autrichien extrêmement bien élevé, très charmant, très rigoureux. Ces scénarios font moins de 70 pages et tout est écrit. Un assistant, une costumière, un décorateur peut s'en servir, l'ingénieur du son, le chef opérateur, d'une précision parfaite. C'est rêve de travailler avec lui.
Et le contraire de Haneke, ce serait qui? Le bordélique, celui qui
écrit des pages. C'était un peu Brissot quand même.
C'était Brissot. Margaret Ménégos, parmi les derniers arrivés, il y a des talents dont vous pouvez dire aujourd'hui, celui-là, je le suivrai sûrement encore longtemps.
Ben, il se trouve que c'est un Allemand qui s'appelle Christian Petzold. On a commencé, je l'admire depuis longtemps. On a commencé par distribuer Transit. Là, on va coproduire son prochain film qui s'appelle Undine. Et je pense construire quelque chose avec lui.
Merci beaucoup, Margaret Ménégos. Merci.
Je vous en prie.
Dossier complet à retrouver sur franceculture.fr et entretien avec Margaret Ménégos à réécouter en intégralité sur franceculture.fr à la page de la Grande Table. Margaret Ménégos qui sera par ailleurs l'invitée unique de Plan Large d'Antoine Guillot, un Plan Large qui lui sera consacré le samedi 15 juin, le prochain, donc Portrait en 6 films.